Dans L'Argent de Poche, on tend le micro à des comédiens et des comédiennes pour qu'ils nous racontent les galères, les débrouilles de leur début. Certes, aujourd'hui, ils sont riches et célèbres.
Oui, enfin pas
mais
tous.
Mais hier, ils ont dû faire 1000 petits boulots avant de rejoindre le haut de l'affiche.
Alors que s'ils avaient eu l'application gratuite Au Max pour moi, ils auraient pu gérer leur argent facilement en réunissant tous leurs comptes et toutes leurs cartes au même endroit. Et ils auraient pu aussi augmenter leur pouvoir d'achat avec du cashback dans les plus grandes enseignes, profiter du zéro frais à l'étranger et payer avec leur téléphone ou leur montre connectée.
Ok, mais quand certains ont commencé, il n'y avait même pas le Bebop.
L'appli Au Max pour moi vous souhaite une bonne écoute de L'Argent de Poche.
L'Argent de Poche.
J'ai plein de projets en ce qui te concerne.
L'Argent de Poche.
Tu veux pas me prêter 1000 balles?
C'était quoi la question?
Qu'est-ce que tu sais faire?
Je gagnais ma vie en travaillant dans un magasin.
L'Argent de Poche, les grands acteurs aussi ont commencé petit.
Bully Lanners a toujours rêvé d'être un artiste, de pouvoir voyager, de ne pas avoir d'attache. Mais avant de devenir le réalisateur des géants, auréolé par De Magritte chez lui en Belgique, ou le comédien à la mine immédiatement reconnaissable aperçu chez Kervern et Delépine, chez Dupontel, Jacques Audiard ou Danny Boone, Bully Lanners s'est fait virer des Beaux-Arts, a enchaîné les petits boulots, fait les 400 coups à Liège, la Stone City des années 80, et a même vécu sur une péniche pendant 2 ans lors d'une période de flottement. Pour ce nouvel épisode de L'Argent de Poche, le comédien nous donne rendez-vous dans un square de région parisienne où il tourne actuellement. À la croisée du boulevard de Brandebourg, de la rue Molière et du stade Lénine. Un lieu on ne peut plus approprié pour celui qui a commencé sa vie au beau milieu d'une zone frontalière.
L'Argent de Poche.
L'Argent de Poche.
J'ai grandi dans un village un peu particulier. C'est un village qui se situe à la frontière allemande et à la frontière hollandaise en Belgique. Et c'est un village qui a été neutre pendant un siècle et demi. Donc il y avait un statut très particulier parce qu'après la défaite napoléonienne, ce territoire était une mine de zinc. Tous les toits de Paris ont été faits avec le zinc extrait de mon village. Et donc ce village avait un statut particulier, il était neutre. Alors 14, les Allemands ont envahi par là, donc ça a été terminé. Mais ce qui fait que le village était habité par des gens qui, comme la Légion étrangère, avaient une immunité quand ils étaient recherchés pour des faits de banditisme ou de n'importe quoi ailleurs. Ils intégraient le territoire et ils recommençaient leur vie à zéro. C'est-à-dire que tous les descendants de mon village sont des descendants de gangsters. Et c'est le village en Belgique où il y avait le plus de bistrots par habitant à l'époque. Et mon père était douanier, donc je peux te dire que ça y allait. C'est déjà l'Allemagne et la Hollande et la Belgique, donc c'est déjà frontalier. C'est une des communes de Belgique où on parle allemand, donc c'est déjà un truc un peu particulier. Moi, je faisais partie de la minorité francophone, de la minorité germanophone, mais il y avait une grande tolérance à tous les niveaux, plus tout ce que la douane engendrait comme mixitude aussi. Il y avait des camions russes qui passaient, c'était à l'époque où il y avait encore les carnets ATA, donc c'était pas du tout l'Europe, c'était encore une vraie douane. Avec de l'autre côté la douane allemande, et c'était à l'époque de la bande à Bader, donc les Allemands étaient habillés comme dans les films de guerre, ils avaient des mitraillettes et tout ça, et ma mère était femme de ménage en Allemagne, donc on passait la douane tous les jours, nous. Donc c'était un contexte très particulier, mais en même temps, avec beaucoup de mixitude, ce qui fait que je parle allemand, que je parle néerlandais, que je parle plusieurs langues, mais surtout avec énormément de tolérance. Mes parents avaient été impactés super fort par la guerre, donc ils avaient toute légitimité d'en vouloir aux Allemands. On est quand même juste après la guerre, mais il n'y avait jamais de rancœur à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à accepter le communautarisme. Tu vois, c'est un truc que je ne comprends pas. Je ne suis pas né là-dedans, je suis dans le contraire de ça, moi. Comme plein de gamins, au départ, je suis timide, donc du coup, je fais le con pour me faire accepter. Comme je suis pas le plus fort, je suis le petit gros de la bande, donc t'es obligé de faire rire les autres, et puis c'est comme ça que ça commence. Mais de base, j'étais timide, donc j'avais en même temps un rapport social très fort avec tout le monde, et puis il y avait des moments où j'avais vraiment besoin de m'évader. On était entouré de nature, hein. Il y avait des bois partout, c'était la campagne, c'était pas les années 70, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup d'évasion aussi, il y avait beaucoup de tolérance aussi dans mon éducation, on me permettait de faire pas mal de trucs. Mes parents, je ne dirais pas vraiment bien ce qu'on faisait en fait. Et donc on était assez bien livrés à nous-mêmes, et c'était... mais pas délaissés du tout. Hein. On nous permettait de faire plein de trucs qu'on ne permettrait pas à des jeunes gars de faire aujourd'hui. Quoi. Moi je suis parti pour la première fois seul, en vacances, à vélo, donc pendant 15 jours, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, je dis, ah ouais, ma mère m'a quand même laissé partir. Donc je suis parti seul avec mon vélo, une tente, et j'ai parcouru les Ardennes pendant une quinzaine de jours. J'avais une petite radio qui était accrochée à mon guidon, une radio à pile, et j'écoutais la musique en pédalant. Et du coup, j'avais gagné un peu de thunes comme étudiant. C'était mon tout premier boulot. J'avais un tout petit peu d'argent, mais je m'achetais des clopes. Et quand nous, on n'allait jamais au resto, parce que je suis dans un milieu modeste, je m'arrêtais parfois dans une friterie, mais je m'installais à l'intérieur et je commandais des frites qu'on me servait sur une assiette avec une boulette. Et puis j'avais l'impression d'être le roi du monde. Mais j'avais 13 ans, donc c'était génial. J'avais un sentiment de liberté inouï. Et puis il n'y avait pas de téléphone, donc Je donnais un coup de fil par semaine à mes parents. Il fallait qu'ils soient de l'autre côté du fil aussi pour qu'ils répondent et pour dire que tout allait bien. Et puis ça s'arrêtait là. Il y avait une espèce d'insouciance absolue, quoi. Les premiers boulots que j'ai eus, c'était, il fallait, je faisais les poubelles. Je fouillais pas dans les poubelles, je travaillais pour une société qui ramassait les poubelles. Mais à l'époque où il n'y avait pas de sac poubelle, donc c'était encore des poubelles en métal qu'il fallait soulever dans le camion et puis secouer et puis remettre. Donc ça puait la rage. Et puis surtout, comme j'étais un petit gros, je devais courir derrière le camion et devant tout le village, quoi. C'était super humiliant, mais ça payait vraiment très bien. Après, j'étais magasinier. Après, j'ai travaillé dans un abattoir. J'ai refait les travaux de peinture. Je travaillais un peu partout. Tous les boulots qu'il y avait à la campagne, je les faisais, quoi. Tous les gosses faisaient ça à l'époque. On bossait tous. À partir de 12 ans, on a tous commencé un peu à bosser. Tout gamin, je faisais comme tout le monde. Je voulais être vétérinaire, je crois. À un moment donné, je crois que j'ai même noté des trucs comme astronome, je sais pas pourquoi. Il paraît même pas être un métier, mais enfin, ça doit être un métier à mon avis. Mais non, assez vite, parce que à 12-13 ans, je suis tombé sur des bouquins de peinture sur les impressionnistes qu'il y avait dans la petite librairie qu'il y avait dans mon village. Et à partir de là, j'ai voulu être peintre, ou en tout cas un métier qui me permettrait de vivre au jour le jour, de rencontrer des gens. J'étais fasciné par l'existence de Rimbaud et tout ça, donc j'ai lu les biographies très sommaires, mais assez vite, donc j'avais une espèce de fantasme sur l'idée d'être artiste, de voyager, de rencontrer des gens, d'avoir un quotidien différent d'un jour à l'autre. Donc tout le contraire de mes parents, de ne pas être coincé dans un truc. Et ça, je l'ai fantasmé très très tôt, donc vers 12-13 ans déjà.
L'argent de poche ?
L'argent de poche.
Il n'y avait pas de cinéma, donc nous, le cinéma, c'était la télé. Et comme on était à la frontière allemande, il y a beaucoup de films qu'on regardait sur les chaînes allemandes, parce que c'était encore des programmes hertziens, donc ça fonctionnait avec des antennes. Donc si tu n'étais pas bien situé, tu ne captais pas telle chaîne ou telle chaîne. Après, il y a eu le câble, mais qui est venu quand j'avais 13 ou 14 ans seulement. Donc moi, j'ai regardé beaucoup de films sur les chaînes allemandes, et c'est là que j'ai découvert des trucs. Plus tard, quand j'avais 14-15 ans, ils repassaient tous les Wenders. Et j'ai vu La Lettre Écarlate, qui était un téléfilm d'ailleurs, c'était même pas un film de cinéma, La Lettre Écarlate. Et puis alors, Alice dans les villes, L'Ami américain, L'État des choses. Et donc il y avait aussi un ciné-club sur la télévision belge où ils passaient les Monty Python. La première fois que j'ai vu Sacré Graal, j'ai pas compris ce que c'était, mais ça m'avait halluciné. Parce que je croyais que c'était un vrai film de chevalier. Et puis je me dis, mais non, mais c'est un truc que je connaissais pas. Et là, j'ai découvert quelque chose que je connaissais. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce cinéma un peu particulier. Et puis au collège, où on était au collège, il y avait tous les deux mois, il y avait un type qui passait avec un projecteur 16 mm et qui projetait un film. Et donc on avait droit à La Grande Vadrouille. Non, c'était quoi ? C'est la 7e compagnie. Et une année, ils ont passé Tati, mon oncle. Et ça aussi, ça a été un choc pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma d'auteur. Et j'ai commencé à faire des allers-retours entre la campagne et la ville. En fait, moi, je voulais faire les Beaux-Arts depuis que j'avais 13-14 ans. Mais mes parents m'avaient dit, tu termines d'abord ton bac, hein, l'équivalent du bac en Belgique. Et puis après, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai, avec beaucoup de difficultés, terminé mon bac. J'étais en maths fort chez les pères. Donc c'était vraiment pas mon univers du tout. Donc je suis parti de là, j'avais 18 ans. Et puis quand je suis arrivé à Liège, j'avais été, je pense, ferré trop longtemps. Donc ça a été à... Toutes les vannes se sont ouvertes et Liège, c'était quand même Stone City à l'époque. C'est pas toujours aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une vie plus nocturne extrêmement présente. Et donc, je suis plongé dans tout, quoi. Trop longtemps retenu, donc ça a été des années de folie, le début. Mais c'était super, j'ai rencontré plein de gens, j'étais viré des Beaux-Arts. Puis là, ça a commencé, quoi. On vivait de la nuit, il y avait des bistrots partout, il y avait des concerts partout. J'ai vu plein de groupes super. Il y avait Chet Baker, habité à Liège, on croisait Chet Baker dans les bistrots. Il y avait les Lounge Lizards qui passaient, il y avait toute la scène punk qui avait commencé à mai, qui continuait sur Liège. Il y avait de tout, quoi. Ça foisonnait dans tous les coins, il y avait des expos, il y avait des cafés éphémères déjà à l'époque, c'était en 84. Il y avait beaucoup de cam, beaucoup de cam. C'était le début aussi des drogues dures, c'était le début de la coke, l'héroïne commençait à déferler surtout, c'était le début de tout ça, le speed et tout, donc j'ai perdu beaucoup de potes aussi. Et en même temps, des années super, parce qu'il y avait une liberté de ton exceptionnelle, je trouve. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais foutre. Moi, j'étais en train de vivre ce que je voulais vivre comme vie, mais sans avoir le métier qui va avec.
L'argent de poche.
L'argent de poche.
Je bossais dans les bars. La première année, j'ai commencé à bosser dans les bars. J'ai fait plein de métiers, mais je pense que le métier que je fais le mieux, c'est barman, je pense. Je crois que je suis bien meilleur barman que réalisateur et comédien. Je suis un très très bon barman. Donc j'ai fait les bars la nuit, et c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens, dont des gens qui bossaient en télé. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser en télé. Mais j'étais chaque fois en parallèle, en dilettante. C'était pas du tout dans un but de carrière. Mais tout le monde testait, c'était un peu le Far West, parce qu'on n'avait pas d'expérience. J'ai fait 10 000 métiers, mais sans avoir aucune expérience de mon métier, ce qui paraît peu plausible aujourd'hui d'arriver à faire ça. Et j'étais régisseur, j'étais accessoiriste de plateau, j'étais artificier, j'ai une cantine même, j'étais machinot, mais chaque fois que je commençais un tournage, j'y connaissais rien, quoi. Donc j'étais pas bon, mais c'était pas grave. Les sources de stress sont venues après, quand j'ai vraiment été dans la dèche, parce qu'à cette période-là, il y avait encore de la thune, je travaillais, ça allait... J'assurais ce qu'il fallait assurer, je payais mes lois sociales, tout, mais ça allait. J'avais juste peur quand j'allais chez ma comptable, mais j'étais dépensier, mais même pas non plus. Enfin, je claquais tout ce que j'avais, c'est sûr, mais comme tous les mecs de 22, 23 ans, tu gagnes un peu de thunes, enfin, je sais pas, à l'époque, tu mettais pas de côté, tu dépensais, quoi. Après, j'ai eu un rapport beaucoup plus dur à l'argent, parce que j'en ai plus du tout, donc ça, c'était beaucoup plus compliqué, parce que là, ça t'amène dans une autre dimension. Mais là, les premiers temps, c'était plutôt cool. L'argent tombait comme ça. On faisait beaucoup de noir aussi. Moi, j'ai fait des tournages. Je me suis retrouvé sur un gros film américain qui se tournait à Bruges. Un gros truc d'époque où il y avait des équipes américaines, il y avait des Bulgares, il y avait des Israéliens, il y avait tout. Et tout le monde était payé en black, quoi. On nous filait tous l'argent mano mano, tu vois, en liquide, quoi. Toutes les équipes. Donc, c'était vraiment clairement du blanchiment d'argent. Mais tout le monde, ça nous arrangeait. J'ai fait des séries en Allemagne, j'ai fait Derrick Tatort et des trucs comme ça, parce que je parle allemand, où j'avais un jour, deux jours de tournage, je partais à Cologne. Je savais que c'était pas bon, je savais que je jouais mal, mais je ramenais des Deutschmark et c'était en black. Avec ça, je tenais 3 mois, tu vois, c'était pas très compliqué.
L'argent de poche.
L'argent de poche.
Il y a eu une période où... où tout s'est effondré, parce que les sociétés pour lesquelles je bossais, dans lesquelles j'avais investi un peu d'argent, avaient fait faillite. Et je me suis retrouvé dans la dèche, mais sans le droit au chômage ni rien. Et donc, à ce moment-là, j'ai plus du tout de revenus. Et donc, j'avais acheté une péniche pour faire mes bureaux, mais qui était une ruine, il fallait la refaire. Et donc, j'avais fait installer une cabane qui était sur la péniche, sur le halage, pour faire les bureaux. Et en fait, je me suis installé dans cette cabane et j'y ai vécu 2 ans. Mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Donc j'ai vécu pendant 2 ans. Et c'est long, 2 ans. Hein. Ce n'est pas 15 jours, hein. c'est 2 ans. Hein. Donc c'est 2 hivers, 2 étés, puis tu ne vois pas le bout. Et dans une cabane dans laquelle il n'y avait pas d'eau, il y avait un chauffage, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chiottes, il n'y avait rien. Quoi. Et là, ça a été des années de... Ouais, j'avais plus d'adresse, puisque la cabane était sur un chemin qui n'était pas raccordé, donc il n'y a pas d'adresse. Donc j'étais SDF. Ça, c'est les vraies années de misère, ça. J'avais plus 20 ans, j'avais 30 ans, donc c'est vachement plus dur. La vie au quotidien, et puis le regard des autres aussi. Et le regard de tes parents, ça, c'est très, très dur. Tu vois bien que tes parents savent que t'es dans la merde. Aucun parent n'est préparé à ça, à ce que son fils ou sa fille soit un loser. À ce moment-là, j'étais vraiment dans la loose. Donc, t'as le regard, le poids des parents, ça, c'est très dur, parce que tu culpabilises à mort. Et puis après, c'est très dur de raccrocher à la société, parce que t'es... Tout devient impossible quand tu n'as plus de thunes. Tu ne sais plus rien faire, tu ne peux pas te déplacer. Il faut des thunes pour te déplacer. Ta bagnole, elle n'est plus assurée. Tu te fais choper, tu es dans la merde. Tout est dur. Donc, tu ne peux pas téléphoner, il faut payer le téléphone. Enfin, je veux dire, quand tu n'as vraiment pas de thunes, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire l'essentiel de ce que les gens font maintenant. Tu dis, tu n'as qu'à donner un coup de fil. Enfin, mais tu ne peux pas faire ça. Tu as un casting à Paris, mais tu vas comment à Paris? Il faut payer, tu vois. Tu ne peux pas y aller en stop. Enfin, même si tu vas en stop, il faut bouffer pour y aller. Enfin, c'est pas... tout est dur. Quand tu n'as pas de thunes, tu ne peux rien faire. Tu peux juste voler, c'est tout. Quand on te dit que tu touches le fond, tu te repousses et puis tu remontes. Sauf que moi, je suis resté au fond longtemps, avant de comprendre qu'il fallait repousser pour remonter. Donc moi, j'ai vraiment fait le fond de la piscine. J'ai bien vu les morceaux de sparadrap dans le fond, tu vois, les touffes d'herbe, de cheveux. Et puis avant, je suis remonté. C'est la mort de mon père qui a été un déclic où il est mort. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Donc j'organisais un festival avec un copain qui s'appelait le Festival du film Lourd et d'essai, qui est un festival dans lequel on projetait des films ratés. Donc des films faits par des étudiants, des films d'entreprise, des publicités, des films d'art et essai, de galeries. Mais on les remontait. On n'avait aucune déontologie. C'est des films que les mecs avaient ratés. Nous, à l'époque, on trouvait tout ce qu'il y avait comme cassette, VHS. On glanait à gauche, à droite. Il n'y avait pas Internet, donc il fallait qu'on trouve la matière. Je connaissais tout le monde, donc je disais à tout le monde, tout ce qui est plus naze, filez-le-moi. Et nous, on remontait les films et on faisait des films de 10 minutes. Ils étaient hilarants. C'est vraiment de l'art brut, quoi. Et on faisait une compile qui durait une heure et demie et on projetait ces films-là dans un festival. Et puis après, on projetait, comme on était un peu dans le milieu rock, on projetait ça dans des festivals de rock, des gros festivals comme Dour. Donc on projetait le film à 3h du matin devant 4000 personnes. Et les gens étaient chargés, donc on avait un super public qui réagissait vachement bien. C'était très très drôle. Et puis bah, une année, j'ai manqué de film, donc j'en ai fait un. Donc j'ai fait mon premier film, j'ai fait un film raté. Ce n'est pas si évident à faire. Mais il n'y avait pas de tournage, donc comme je collectionnais les films Super 8 que j'achetais au puce, parce que c'était à l'époque où tout le monde transférait ses films Super 8 en VHS, donc les gens jetaient leurs films Super 8, moi je rachetais tout ce qu'il y avait, pour rien quoi. Je faisais simplement un montage, des copier-coller de films de famille, et puis je refilmais le truc, on mettait une voix off, donc c'est un film qui coûtait vraiment rien. C'était très con, hein, mais c'était à mourir de rire. J'en ai fait trois comme ça, et puis j'en ai fait un autre qui, lui, je l'ai produit avec des souscriptions, on appelait ça, donc on a demandé à tout le monde de mettre 1000 francs belges, à l'époque c'est l'équivalent de 25 euros, et j'ai eu 100 000 francs, je me rappelle, et on a fait un film qui a duré 5 jours en Super 8, noir et blanc, mais écrit, donc pas avec des images de films de famille, mais avec des images qu'on filmait nous-mêmes. Et puis là, j'ai rencontré mon producteur, qui était stagiaire dans une boîte, qui a vu les rushs, et qui, lui, connaissait tous les mécanismes de financement, et qui a dit, on va trouver de la thune, on va le gonfler en 35, il faut retourner deux jours, il manque des plans de coupe et tout. Et puis on a fait un film qui a été sélectionné à Clermont-Ferrand, en compète internationale, et on a eu un prix, le film a fait le tour du monde, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça, c'est vraiment par une espèce de hasard que je suis devenu réalisateur. Et à partir de là, quelque chose a commencé tout doucement à se mettre en place. C'était plus juste au petit bonheur la chance. Il y avait un vrai court-métrage qui faisait des festivals à l'étranger, qui faisait plein de festivals, qui a eu des prix, qui nous a même ramené un peu d'argent. Et puis il y avait la promesse d'en faire un autre, et puis un long, parce que j'avais un producteur qui me disait « il faut faire ça, il faut avancer et tout ». Et c'est lui qui m'a permis quand même de continuer, sinon j'aurais jamais osé, moi. J'y connaissais rien. J'ai toujours ce syndrome de l'imposture, j'arrive pas à... Parce que moi, je me vois pas comme un mec de 56 ans, je me vois toujours comme un mec de 17 ans. Parfois, je me dis, ouais, quand je vois les photos de groupe, je me dis, ok, c'est moi le plus vieux sur le tournage. Tout le monde se dit, ce mec est tout à fait légitime, sauf moi. Moi, j'y arrive pas encore bien, voilà. À chaque début de tournage, j'ai peur. J'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, ça restera. Ce qui fait que je me décarcasse peut-être un peu plus pour que ce soit le mieux possible aussi. Mais ce syndrome restera là, voilà, mais c'est pas très grave. Une fois qu'on vit avec, on sait qu'on n'en meurt pas, c'est pas très grave, on vit juste avec.
L'argent de poche, les grands acteurs aussi ont commencé petit.